Riviera Ferraille.
Bonsoir à tous, ici Mathias. Avant de commencer cet épisode du Bureau des Mystères, j'avais deux choses à vous dire. Déjà, je tiens vraiment à m'excuser auprès de vos oreilles et surtout auprès de mon invité du jour pour le son de ce numéro, parce que comme pour celui avec Mimi, j'ai extrêmement mal paramétré le micro et j'en suis vraiment désolé et promis, ça n'arrivera plus. Ensuite, sachez que vous pouvez dès à présent aller voter pour vos histoires préférées du Bureau des Mystères. Un lien Typeform se trouve dans la description de cet épisode et sur Riviera Ferraille. Voilà, c'est tout pour le moment. Bon épisode.
Jeu en ligne abandonné, l'étrange cas de Marina Joyce, le mystère de la chaîne du Sagittaire, la vidéo la plus terrifiante du web, ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias, et cette semaine encore, Charles n'est pas présent, mais je reçois un invité de marque aujourd'hui. Cet invité, c'est Vincent Manilève. Qui es-tu, Vincent ?
Bonjour Mathias, bonjour à tous. Je suis journaliste, et j'écris beaucoup sur ce qu'est la culture web, on va dire, et en particulier sur YouTube et les youtubeurs, voilà.
Et Vincent a lui-même sa propre émission sur le réseau Binge,
tout à fait,
qui s'appelle NoTube, où il nous parle de YouTube. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une spéciale mystère de YouTube. Et qui d'autre, mieux que Vincent, pouvait nous présenter ces sujets avec moi aujourd'hui ? Et je vous propose de commencer par le premier mystère. Une étrange rencontre. Le 21 mars 2016, Vini, un youtubeur et streamer, se baladait sur un inquiétant jeu en ligne abandonné, et au bout d'une heure de solitude, il a fini par croiser la route d'un inquiétant personnage du nom d'Itomi Fujiko. Alors je ne sais pas si Vincent, tu connais Vini de Vinesauce, si tu connais ce réseau-là ?
Oui, enfin légèrement de nom, mais c'est vrai que j'ai découvert grâce à toi, en discutant avant l'émission, ce mystère, cette rencontre assez étrange et improbable en fait, étant donné le jeu et ce monde-là.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Vinesauce, je vais faire les présentations. Vinesauce, c'est un site et le nom également d'un groupe de streamers qui aiment beaucoup, entre autres, déterrer des vieux jeux assez étranges. Et le fondateur du groupe s'appelle Vini, et comme vous l'aurez deviné à ce stade-là, c'est lui qui a donné son nom au site, Vini Vinesauce, c'est évident. Alors le 21 mars 2016, il a, un petit peu comme à son habitude finalement, lancé un live avec ses abonnés, et l'idée était d'explorer un jeu en ligne abandonné qui avait connu son heure de gloire à la fin des années 90. Ce jeu, c'est Active Worlds. Active Worlds, il a été lancé en 95, et c'est ce qu'on appelle un, je cite, univers virtuel persistant. En gros, c'est un petit peu comme un MMORPG type World of Warcraft, et à la grande époque, c'était un site qui était payant, il y avait d'ailleurs deux tarifs, il y avait le premier où tu pouvais juste te balader en fait, dans l'univers, et le deuxième permettait, pour un peu plus d'argent, de devenir un vrai habitant d'Active Worlds, et de carrément construire des choses. Parce qu'en fait, dans le jeu, tout était constructible, tout était personnalisable. En fait, c'était un petit peu un ancêtre de Minecraft, de ce côté-là. Tu pouvais vraiment tout construire, tu pouvais voilà, récupérer des éléments et fabriquer ce que tu voulais. Il y avait aussi des fonctions de chat par écrit, qui ont ensuite été réutilisées dans pas mal de choses, notamment Second Life et Habbo Hotel. Donc on est vraiment sur un ancêtre, voilà, tout ce qui est Minecraft, Second Life, Habbo Hotel, c'est toute cette génération-là de jeux de la fin des années 90 qui ont posé des bases, quoi. En fait, c'était un petit peu un réseau social avant l'heure, et forcément, à l'époque, à la fin des années 90, et aussi au tout début des années 2000, il y avait énormément d'internautes dessus, souvent des centaines en permanence sur les différents serveurs, donc il y avait du monde, quoi. Mais Active Worlds est peu à peu tombé dans l'oubli, et il s'est transformé au fil des années en une sorte de cimetière virtuel, et quand Vini a commencé son exploration, il était tout seul sur son serveur. Comme beaucoup de personnes ont voulu le rejoindre, parce que Vini est un petit peu connu quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu le rejoindre et qui se sont créés un compte en même temps, donc les serveurs ont planté. Ce qui fait que Vini était, lui, pas déconnecté, puisqu'il était déjà sur le serveur au moment où il y a eu la grosse panne. C'est un petit peu comme une attaque des DOS, ça a vraiment tout fait planter. Et lui était donc, en toute logique, censé être seul sur le serveur. Alors, il a commencé son exploration. Pendant une heure, il s'est baladé dans cet univers qui est quand même très étrange. Si vous regardez la vidéo, qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne de Vinesauce, on voit que ce qu'il a fait, en fait, un petit résumé de son live en une dizaine de minutes, qui est assez inquiétant d'ailleurs. Et vous voyez que le ciel est complètement couvert, il est plutôt rougeâtre, il y a vraiment des couleurs assez inquiétantes, il y a un château qui se distingue au loin, il y a des PNJ qui sont statiques, on dirait qu'ils sont morts, ils sont sur des calèches, ils font vraiment plus rien, ils sont complètement statiques, c'est assez étrange. Il y a des statues inquiétantes un petit peu partout, des fontaines qui crachent du sang même, et de la lave qui coule au sol par endroits, donc on est vraiment dans un univers pas très accueillant globalement. Et donc à l'évidence en fait, parce que comme je le rappelle, tout était entièrement constructible, les derniers utilisateurs du serveur sur lequel était Vini ont voulu donner à l'endroit une atmosphère un petit peu apocalyptique, en mode c'est fini, donc on va créer une ambiance un petit peu mystérieuse et surtout très très inquiétante. Il y a aussi beaucoup de bugs qui renforcent cette impression-là. Il y a des squelettes en lévitation, on voit un sanglier qui flotte à un moment. Il y a souvent des manques de repères entre le ciel et le sol. On ne sait plus où on est exactement, il y a une perte de repères totale. Donc bon, c'est assez cauchemardesque, mais comme Vini est plutôt sympathique pendant son live, ça passe. C'est-à-dire qu'on trouve le tout un petit peu étrange, mais Vini est rigolo, donc finalement on passe pas un si mauvais moment.
Ça reste drôle.
Ça reste drôle. Mais au bout d'une heure de jeu, ça devient beaucoup moins drôle parce qu'un personnage apparaît et un personnage qui, contrairement aux autres, bouge et parle. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Je vais passer maintenant un extrait de la réaction de Vini au moment où il a vu que quelqu'un a commencé à lui parler sur le jeu alors qu'il était censé être tout seul.
An NPC just said, "Hello, traveler, are you lost?" Actually, yes. Holy shit. What is this? Person, did you see that? Who is that? He keeps saying, "Are you lost?" over and over again. I typed, "Help."
Ah bah, cette personne qui lui parle donc par écrit hein, sur le chat s'appelle Hitomi Fujiko et il porte une tenue d'arlequin. Il a un masque un peu à la Eyes Wide Shut sur le visage et à plusieurs reprises il lui demande s'il est perdu. Un petit peu comme un PNJ finalement qui lui dirait « Est-ce que je peux vous aider monsieur ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire ?» Alors Vini il finit par lui répondre et Hitomi Fujiko lui demande de le suivre. À ce moment-là, Vini pense vraiment que c'est un PNJ, un personnage non jouable, hein, pour ceux qui ne maîtriseraient pas le lexique des jeux vidéo. Et ce personnage pourrait être un PNJ en fait, parce qu'il a des capacités qui sont propres au PNJ, c'est-à-dire qu'à un moment il ouvre une porte que Vini n'arrivait pas à ouvrir dans le jeu, comme s'il avait des accès voilà, pour aider les joueurs finalement. Alors Vini le suit pendant un petit moment, et donc Hitomi Fujiko le conduit dans ce qui ressemble à la cour d'un village, où on voit des petites échoppes abandonnées. Et c'est à ce moment-là que commence un dialogue plutôt étrange, que je vais vous lire, c'est Hitomi Fujiko qui commence. « Je suppose que tu es humain. » Oui, est-ce que tu l'es ? Donc ça, c'est ce que répond Vini. Et là, Hitomi lui dit « Nous sommes très prudents avec les humains ici, voyageurs. Nous, les elfes fiers, je ne te dénoncerai pas humain. Mais je dois te laisser trouver ton propre chemin à présent. » Ils se séparent comme ça, et c'est là que ça devient encore plus inquiétant. Hitomi Fujiko lui dit « Bonne chance, hé. » Ce qui n'est pas un comportement normal de PNJ en soi. Hein. Et en plus, en disant « Bonne chance comme ça », le personnage part en courant. À l'autre bout de la map. Alors Vini est quand même un petit peu choqué de ce qui vient de se passer, il décide de le suivre, et en se rapprochant d'Hitomi, il voit apparaître dans son chat une autre phrase d'Hitomi Fujiko, qui est elle aussi plutôt curieuse, « Il ne connaîtra jamais mes vraies intentions, stupide humain. » On est sur un petit peu du malaise, surtout quand tu penses être tout seul sur un serveur. Alors, il y a Vini qui lui fait remarquer qu'il peut lire ce qu'il lui dit, quand même. Et il lui demande à Hitomi quelles sont ses vraies intentions. Et là, contre toute attente, on pourrait s'attendre à ce que le personnage juste arrête. Il lui répond. Et il lui répond un truc plutôt curieux. « Humain, je ne voulais pas te le dire, mais cette terre est vide. Je suis le dernier qui reste. Il ne peut pas y avoir plus d'une personne qui erre sur cette terre vide. » Alors, Vini lui dit « Mais je suis la seule personne, ici. » Et Hitomi lui répond qu'il est réel. Et donc là, grosse surprise chez Vini, qui fait « Quoi ? What the fuck ?» Tu vois, il est vraiment surpris. Et Hitomi répond, je suis réel, non, s'il te plaît, dis-moi que j'existe.
Rassurant,
on commence à avoir un petit frisson qui parcourt l'échine quand on est tout seul sur un serveur et qu'il y a ça qui apparaît d'un coup. Et Vini, évidemment, commence lui à sérieusement flipper. Et surtout que Hitomi enchaîne avec des propos qui sont encore plus mystérieux. Il lui dit, vagabond, je ne sens plus la douleur. Peux-tu sentir la douleur ? À ce stade, Lavigny est terrifié, et c'est à ce moment précis que Hitomi, son avatar, se change en loup-garou, et lui écrit « Cours, pars loin d'ici, puis en caps lock, pars ». Lavigny quitte le jeu, brièvement quand même, et il revient un petit peu plus tard pour comprendre ce qui s'est passé, et il retrouve Hitomi, qui est à nouveau habillé en harlequin, dans une petite maison, sur un autre endroit de la map, et il lui demande s'il est une personne en chair et en os, et là Hitomi lui répond ceci « Je suis un ancien, il fut un temps où je régnais sur ces terres ». Il lui dit ensuite que Vini est responsable de la mort de tous ceux qui occupaient ce monde avant. Et donc Vini, là, vraiment définitivement terrifié, décide de quitter le jeu. Et avant qu'il parte, Itomi lui dit « Au revoir, Vinny ». Et ensuite, il disparaît. Et en fait, c'est vraiment ce dernier détail qui trouble le plus Vinny, parce qu'il il s'est demandé comment ce PNJ pouvait connaître son prénom, en fait. Parce que c'est Vinesauce, le pseudo qu'il a sur le jeu. Il n'a pas communiqué son vrai prénom, ça pourrait être Vinny, ça pourrait être Vincent, tu vois, Vinesauce, ça pourrait être n'importe quoi. Et à la fin du stream, il est complètement sous le choc en se demandant « Mais comment ce personnage peut connaître mon prénom, quoi ?» Et d'ailleurs, je passe à un autre extrait où on le voit commencer sérieusement à flipper à la fin, à essayer de comprendre ce qui s'est passé sans trouver de réponse.
I guess I should say now that that was not planned. If you know me, you know how lazy I am. I don't plan for shit like this. I don't know who that was. I don't know why more people didn't flood that place. But yet one guy did. He somehow was able to open the gate. I don't know how he did it. I don't know how that happened, and I don't know how other people didn't join. I don't know how it was just one dude. I thought he was scripted. I thought that was like an AI that was left behind by someone who made that land. Thank you guys for joining me tonight.
Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je rappelle que Vinny était censé être seul sur le serveur. Il a été confirmé depuis par la société que les serveurs d'ActiveWords avaient effectivement planté à cause du trop grand nombre de personnes qui avaient voulu rejoindre. Et dans la vidéo qu'il a mis sur YouTube, d'ailleurs, on voit bien qu'il croise absolument personne à part Itomi Fujiko. C'est vraiment le seul personnage qu'il croise. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est qui est Itomi Fujiko ? Puisqu'on a statué que c'était pas un PNJ, visiblement. La première théorie, et elle a pas mal d'adeptes sur internet, mais on a un petit peu du mal à y croire, c'est que ce serait un fantôme du jeu, en fait, une vraie intelligence artificielle qui penserait réellement avoir une vraie existence. Ce serait un fantôme qui errerait sur le net, du coup. Alors pourquoi pas, c'est assez séduisant comme idée, assez poétique même.
Oui.
Mais on a du mal à y croire. La deuxième théorie est beaucoup plus terre à terre, c'est que ce serait une personne qui travaille chez ActiveWorlds et qui aurait voulu faire une blague à Vinny. Donc ça expliquerait pourquoi elle a pu avoir accès au serveur malgré le bug, et pourquoi elle a pu ouvrir la porte. Donc franchement, ça c'est une des théories qui se tient le plus à ce stade-là.
C'est beaucoup plus crédible en soi.
Exactement, ça c'est tout à fait possible, j'imagine bien la personne d'ActiveWorlds qui dit « Ah putain, quelqu'un joue à notre jeu alors que ça fait super longtemps que plus personne a mis ce jeu en avant, ah je vais lui faire une petite blague ». Et la troisième théorie se rapproche un petit peu de ça, c'est que ce serait une personne qui travaillerait chez ActiveWorlds, mais que Vinny était au courant. C'est-à-dire que tout ça serait une sorte de happening, un genre de prank, destiné à rendre son stream assez mémorable, qu'on en parle un petit peu partout, et donner un petit coup de projecteur pour l'occasion sur ActiveWorlds. Et c'est vrai que depuis ça, il y a des gens qui sont remis à ActiveWorlds pour aller voir comment ça se passe. Alors, j'ai du mal à croire à cette théorie-là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu financier, parce que je ne l'ai pas précisé avant, mais plus personne ne travaille aujourd'hui au développement du jeu, et il est devenu totalement gratuit en 2013. Donc il n'y a pas d'abonnement aujourd'hui, vous pouvez jouer à ActiveWorlds complètement gratuitement. Et donc il n'y a pas d'argent à se faire en fait. Donc ça me paraît assez curieux comme théorie, et surtout qu'il a été prouvé depuis que cette théorie-là, comme les deux précédentes, sont totalement fausses. En fait, il y a eu une enquête qui a été menée par un YouTuber. On a envie de surfer sur les tendances, donc il y a un YouTuber qui s'est lancé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce YouTuber, c'est 50HP. Et il a vu le stream de Vinny, il a été assez troublé, il a décidé d'aller lui-même sur le même serveur d'ActiveWorlds dans l'espoir de tomber sur Itomi Fujiko. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a réussi à retrouver le personnage, donc plutôt cool. Il lui a demandé qui il était et pourquoi il avait fait peur à Vinny. Et là, plutôt que de garder le silence, Itomi lui a carrément répondu. Ce qui est, voilà, hein. Et on a appris, au risque de vous décevoir, que ce n'était pas un fantôme du net, mais que c'était bien une vraie personne. Et voici sa réponse. Je m'ennuyais ce soir-là et mon ami m'a prévenu que Vinny faisait ce stream. Comme il était dans un coin du jeu que je fréquentais souvent, j'ai décidé de faire ça. Alors la vraie Itomi Fujiko, donc c'est une femme, elle s'appelle Poketomi. C'est une utilisatrice de Reddit et une illustratrice qui a quand même une petite communauté de fans. C'est-à-dire que quand on a découvert que c'était Poketomi, il y a ses fans qui ont fait « Ah, c'était toi !» Genre vraiment, elle a vraiment un petit noyau parce qu'elle fait des vidéos de speed painting. Il y a pas mal d'adeptes de ce qu'elle fait. Et elle a décidé de faire un Ask Me Anything sur Reddit en avril 2016, dans lequel elle a tout expliqué. Donc avril 2016, c'est finalement deux mois après ce qui s'est passé, après la rencontre. Elle a raconté qu'en fait, elle était sur le jeu depuis très longtemps et qu'elle n'y avait pas joué depuis environ un an. Elle a connu la fin d'ActiveWorlds, c'est-à-dire au début des années 2000, à l'époque où les gens partaient petit à petit. Et elle avait déjà un compte qui explique sans doute pourquoi elle a pu accéder au serveur sans que ça plante, puisqu'elle n'avait pas à passer par la phase de création de compte, en fait. Et pour la porte, parce que c'est le dernier mystère qui est resté, comment elle a pu ouvrir cette porte que seul un PNJ visiblement aurait pu ouvrir. En fait, c'est tout bête, il fallait juste maîtriser les contrôles d'Active Worlds qui sont assez anciens et assez compliqués, et, parce que le jeu est assez capricieux quand même, il est pas mal buggé. Et c'est juste que comme Vinny n'était pas habitué à ça, il pensait que la porte était bloquée, mais il fallait juste faire une manip particulière pour réussir à l'ouvrir. Et là, visiblement, Poketomi savait le faire. Donc quand elle a vu que Vinny streamait sur le jeu qu'elle connaissait bien, elle a voulu se marrer un peu et elle a expliqué qu'elle avait joué un rôle. C'était vraiment l'idée de jouer le PNJ de jeu de rôle le plus cliché possible. C'est pour ça qu'elle lui a balancé plusieurs fois « Are you lost ?»« Are you lost, Traveler ?» au début du jeu. Et ensuite, elle a pris vraiment un malin plaisir à le faire flipper en mode « Je suis une intelligence artificielle qui pense être réelle. » Et elle a vraiment fait flipper Vinny et tous ses abonnés. Donc, plutôt bien réussi, un des meilleurs pranks, je trouve, qui ont été faits jusqu'à maintenant.
Le personnage très bien construit, on y croit, et enfin, moi, je pensais à la théorie complotiste du Naï.
C'est possible, surtout quand tu te rends compte de Google qui avait créé une intelligence artificielle. Enfin, il y a pas mal de compagnies qui créent des intelligences artificielles, tu dis pourquoi pas, là, il y en aurait une qui aurait été lâchée sur ce MMO où visiblement il n'y a personne. Ça aurait pu être beau, ça aurait pu être joli, mais bon, non, c'était juste une personne, mais qui a eu une très bonne idée et qui l'a vraiment très bien faite.
Très bonne blague, très bon trolling.
Donc aujourd'hui, le niveau de mystère est à zéro, hein, voilà. Mais quand on se met à la place de Vinny et de ses followers, ça devait être vraiment terrifiant, et surtout, avant qu'on apprenne que Poketomi fasse son Ask Me Anything, il y a quand même eu un mois de battement où les gens se demandaient vraiment qu'est-ce qui se passe, et où il y avait un énorme mystère autour de cette histoire. Il y a pas mal d'articles qui ont été écrits sur la question. En mode, j'avais vu un article qui s'appelait cette histoire d'un streamer est vraiment du creepypasta material, quoi. Genre, est-ce que c'est une creepypasta qui prend vie, quoi? Ce serait pas une légende, ce serait genre en mode, en fait, ça s'est vraiment passé. Et qu'il y a eu énormément d'articles qui ont été écrits sur le sujet, et voilà, aujourd'hui l'affaire est complètement classée. Mais un bravo quand même à Poketomi pour nous avoir offert sur un plateau cette magnifique histoire.
Très beau scénario. Il faut sauver Marina Joyce. C'est l'histoire d'une jeune vidéaste lifestyle qui, parce qu'elle a commencé à agir bizarrement sur sa chaîne, va entraîner malgré elle l'une des plus grosses théories complotistes du monde des youtubeurs, des théories qui impliqueront notamment Daesh.
Carrément.
Alors Mathias, je ne sais pas si tu fais ça, mais moi quand je regarde une vidéo sur YouTube, j'adore observer le décor, les sons et appuyer sur pause dès qu'un détail m'interpelle. Notamment quand il s'agit de vidéos de prank, de caméras cachées, je tente de trouver l'éventuelle preuve d'une mise en scène, en fait. Je n'ai jamais découvert de complot reptilien pour l'instant, mais c'est presque grisant d'avoir cette impression qu'on va dévoiler ou trouver quelque chose que personne n'avait remarqué jusque-là. C'est pour cela que, durant l'été 2016, je ne pouvais pas passer à côté d'une vidéo qui est désormais tristement célèbre et qui a été mise en ligne par la youtubeuse britannique Marina Joyce.
Quelle affaire, effectivement.
Quelle affaire,
qui a beaucoup fait parler.
Exactement. C'est une vidéo qui est intitulée Date Outfit Ideas, donc en gros des idées de look pour avoir un rencard, en fait. Elle a été mise en ligne le 22 juillet et on y voit la jeune femme parler à ses abonnés depuis son jardin pour leur proposer des idées de tenue. Des abonnés ont vite remarqué des choses étranges. Alors, je sais pas ce que t'as pensé de la vidéo, Mathias, mais enfin, pour ma part, c'est vrai que j'ai été choqué par certains aspects.
Il y a son attitude déjà.
Voilà, son attitude.
Assez étrange.
Dès les premières secondes, elle parle de manière bizarre. Et justement, on va écouter un petit extrait des premières secondes. Même la musique devient creepy.
So today I'm advertising Style You and I'm advertising their clothes. So this is me just advertising their clothes and yeah, I love you guys so much. It's the clothing company that I'm advertising and this is the dress that I'm wearing.
Des internautes ont commencé à partager leur inquiétude en commentaire et ont décidé d'analyser plan par plan les images. Donc le 25 juillet, il y a une internaute anonyme qui est allée sur le site Pastit, c'est un site qui permet de partager facilement du texte, avec des URL, etc., pour noter des moments très précis de la vidéo. Et selon elle, on entend quelqu'un chuchoter « Help, help me » au bout de 13 secondes. Elle remarque aussi des bleus sur les bras de Marina Joyce et affirme qu'un petit bout de papier à la 8e seconde est en fait un script, donc ça va déjà très loin. Mais c'est pas tout, elle a encore plus creusé. Elle a remonté les fils des vidéos de Marina Joyce et elle explique que dans la vidéo qui s'appelle Everyday Makeup Tutorial, on voit un fusil posé en arrière-plan contre un meuble. Ce qui est vrai, il y a effectivement un fusil, ou en tout cas ce qui ressemble à un fusil, contre un meuble juste derrière la vidéaste. Et parce que sur sa table de chevet sont posés des médicaments, L'internaute sous-entend qu'elle prend de la drogue ou qu'on la force à en prendre. Sur d'autres vidéos encore, elle se sert du moindre signe, du moindre clignement d'yeux, du moindre grincement de dents, de la moindre hésitation pour construire la théorie principale qui va se mettre en place dans les jours qui suivent. Marina Joyce serait en fait sous la contrainte, elle ferait des vidéos sous la contrainte de son petit ami ou de quelqu'un d'autre qui l'aurait en fait kidnappé. Donc là, ça commence à prendre une proportion complètement délirante.
Et la question que tu te poses déjà dès la base de cette théorie, c'est pourquoi ?
Voilà.
Pour la YouTube Money, ça m'étonnerait.
Oui.
Dans quel but? Alors à moins que voilà, soit effectivement, j'ai vu que c'était pas mal sorti un petit ami qui voudrait avoir l'ascendant psychologique sur elle, ouais. Juste un petit ami violent en fait. Ça c'était une des théories principales, c'est celle qu'on pouvait croire dès le début, mais bon, je te laisse continuer sur cette histoire qui a multiples rebondissements.
Oui, justement, parce que ce que cet internaute a mis en ligne sur Pastit, c'est vraiment que la partie émergée de l'enquête en fait. Très vite, il y a un compte Help Marina Joyce qui est lancé sur Instagram, il y a le hashtag Save Marina Joyce qui va monter en trending topic sur Twitter, qui va vraiment faire partie des discussions les plus importantes de ces journées-là. Et donc les internautes, ils vont échanger leurs soi-disant preuves, donc des photos anciennes où elle a également des bleus, des vieux tweets de 2014 qui pouvaient laisser croire que sa vie était en danger, mais à chaque fois c'est des sous-entendus, c'est jamais explicite comme on pourrait le penser. Il y a une image aussi qui a beaucoup tourné, une capture d'une réponse de Marina Joyce à une abonnée une semaine avant le début de cette histoire. Donc cette abonnée lui demandait en commentaire si elle allait bien, et Marina a répondu oui d'abord, puis elle a publié une seconde réponse où elle disait non, ce qui est évidemment très bizarre. Et quand on a une communauté, quand on est youtubeur, on fait pas ça.
On fait attention à ce qu'on dit.
Voilà, on fait attention parce qu'on sait que le moindre commentaire, la moindre marque d'attention vis-à-vis d'un abonné va être pris, il va y avoir une capture écran, ça va être partagé partout. D'autres internautes ont zoomé sur l'œil de la youtubeuse dans une vidéo et se sont persuadés d'y avoir vu une personne qui portait un masque de ski et qui serait donc le tortionnaire. Alors, honnêtement, en regardant le reflet dans l'œil, j'ai bien zoomé, j'ai essayé de jouer avec les contrastes pour voir pourquoi on y voyait ça, mais je crois qu'en fait, c'est un peu comme pour les nuages. Si on te dit que tel nuage ressemble à telle forme, telle chose, ton cerveau va analyser ça et va projeter cette image sur la forme du nuage. Donc je pense que c'était beaucoup plus facile de croire à cette histoire d'homme masqué une fois qu'on l'avait dit explicitement sur internet en fait.
Ça me fait penser à tous ces trucs où on dit aussi si tu passes une musique à l'envers ça fait des bruits étranges, ou même à tous les enregistrements de voix de fantômes on dit tu vois là il dit aidez-moi et en fait là ça fait juste...
Mais c'est comme, oui effectivement là, le son soi-disant on entendrait help me dans la vidéo, mais ça pourrait être un chien qui
aboie bizarrement,
voilà, bizarrement, ça pourrait être plein de chose. Il y a d'autres théories qui ont commencé à émerger. Donc certains pensent que Marina Joyce souffre de schizophrénie, d'autres pensent qu'elle cherche juste un coup de pub, ce qui est une théorie globalement
assez plausible.
Plausible et qui arrive souvent dans ce genre de situation. Mais la théorie la plus farfelue laissait entendre que Daesh l'avait enlevée. Mais alors là, les gens donnaient pas forcément beaucoup plus de détails, pourquoi ils l'auraient enlevée, puis où est-ce qu'ils sont en fait, pourquoi ils feraient faire des vidéos à une youtubeuse, est-ce qu'il y aurait des messages cachés pour vanter Daesh, ce genre de choses, c'est délirant quoi.
Alors sur Daesh, j'imagine que c'est par rapport à ce qui s'est passé après, sur cette histoire de réunion qui devait y avoir un endroit où il y a eu un appel à l'aide en mode rejoignez-moi à tel endroit.
Voilà,
et on pensait qu'il y aurait un attentat.
Alors, effectivement, à un moment, Marina Joyce a donné rendez-vous très tôt un matin dans un endroit en Angleterre, je ne saurais plus te dire exactement le nom, mais elle a donné rendez-vous pour une fête, soi-disant, vers 6h du matin.
Espèce de gros meet-up en
ouais,
fait.
Voilà, une espèce de meet-up, de rencontre avec des abonnés en fait. Et c'était très étrange, l'heure, le lieu où il y avait déjà eu quelques faits divers, etc. Donc c'était très bizarre de voir ce message-là posté par Marina Joyce. Et effectivement, c'est à la suite de ça que les gens pensaient que c'était un traquenard, un piège, et qu'il
allait y avoir une bombe, un attentat de Daesh à cet endroit-là. Et c'est surtout à ce moment-là que j'ai personnellement sur Twitter, j'ai vu vraiment la théorie Daesh revenir extrêmement fort. Mm-hmm. C'est quand il y a eu ce moment-là où les gens se sont dit non, n'y allez surtout pas, c'est un piège.
Et voilà, et c'est à partir de ce moment-là, je pense que ça a basculé dans quelque chose de beaucoup plus paranoïaque, étrange. Et évidemment, Marina Joyce devait prendre la parole pour adresser directement cette polémique, ces controverses-là. Donc dès le 25 juillet, en fait, elle a écrit sur son compte « C'est très gentil les amis, mais sérieusement, je vais bien, je vous aime tous tellement. mais Internet était tellement persuadé que son ou ses tortionnaires avaient pris le contrôle de son compte que voilà, ils n'y ont pas vraiment cru en fait. Même quand l'un de ses proches a directement pris la parole sur son compte Twitter à lui, il a été accusé de complicité, etc. La police a même dû se déplacer au domicile de Marina Joyce pour s'assurer que tout allait bien. Ils ont même fait un tweet ensuite pour dire on s'est déplacé, etc. Mais là encore, ça suffisait pas. Internet n'avait pas assez de preuves que Marina Joyce allait bien. Donc, au final, Marina Joyce a décidé de faire un live donc sur la plateforme YouKnow pour démonter un peu tous les arguments. Donc, elle a dit notamment que le fusil en arrière-plan est un fusil à air comprimé. Le souffle qu'on entend sur une vidéo, c'est celui de sa mère. Les bleus, c'est le fruit d'un accident qu'elle avait quand même du mal à expliquer.
Oui, c'est vrai qu'il y avait cette vidéo assez étrange, effectivement, où on sentait qu'elle arrêtait pas de regarder, genre, derrière la caméra, voilà. Ou sur le côté de la caméra, et on entendait un souffle.
Ouais,
on se demandait si c'était pas son tortionnaire qui était là, en train de l'obliger à faire la vidéo. Voilà. En fait, non, c'était juste sa mère.
Oui, voilà, et puis c'est comme, quand on se fait filmer un spectacle d'école, où il y a quelqu'un qui est sur scène, et il regarde ses parents, il regarde la caméra, il fait coucou. Donc là, voilà, c'était ça, mais voilà, avec le contexte, c'était assez... C'était assez perturbant. Mais là encore, voilà, donc ce live-là va être complètement décortiqué et ils sortent encore des théories un peu délirantes de leur chapeau. Donc Marina, sur la vidéo, porte un maquillage un peu particulier. Elle s'est tracé deux lignes bleues sur la pommette droite, il me semble. Et certains disent que ça fait écho à la Blue Line. Donc c'est un service d'aide aux personnes victimes de violences domestiques. Donc là encore, on peut se dire, est-ce que c'est un message caché pour prévenir la Blue Line, et etc. Machin. Mais... En fait, si on va plus loin que les captures d'écran, si on juste Google Blue Line, etc., on se renseigne un petit peu, on se rend compte que c'est un service polonais. Donc, ça serait bizarre de se dire que la britannique Marina Joyce allait faire une référence à un service d'aide situé en Pologne. Donc, là encore, la théorie a pris, mais c'est parce qu'il y avait la cap écran, les gens ne sont pas forcément allés plus loin et ça confortait leurs idées, en fait. Comme c'est souvent le cas dans les théories...
Un mélange de surinterprétation et de paranoïa, en fait.
Exactement. Et même quand elle a décidé de donner une interview au Daily Mail, donc un choix de tabloïd assez étrange, en fait, je trouve, ses explications laissent peser une sorte de mystère. Elle a démenti toute relation abusive en expliquant que tout le monde se fait des bleus facilement. On peut la croire ou non, et même lors d'une interview avec un autre youtubeur, donc Philippe DeFranco, elle explique que ces bleus viennent d'une chute lors d'une balade dans la forêt. Mais en fait, c'est tellement absurde comme justification que moi, j'ai envie de la croire. Ben oui, ça peut arriver. Enfin,
ça fait sens.
Elle fait des balades dans la forêt, et voilà. Et en fait, progressivement, elle va continuer à faire des vidéos, faire comme si de rien n'était. Donc le hashtag Save Marina Joyce va progressivement disparaître, le compte Instagram dédié aussi. Et les internautes vont juste continuer à faire des blagues sur ce drama, en fait, sous ses commentaires, de temps en temps, régulièrement. C'était assez fascinant à ce moment-là, et terrifiant en même temps, d'observer ce drame numérique qui pouvait naître sous nos yeux, au gré des fantasmes d'ado. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle donc les creepypastas, hein, ces histoires d'horreur que les adolescents se racontent et répercutent un petit peu partout sur Internet.
Puis il y avait un vrai côté feuilleton aussi. Oui. Ça me fait penser à ce qui s'est passé, on en parlait dans notre numéro 0 avec Dear David de Adam Ellis sur Twitter. Cette histoire où le mec pense que son appartement est hanté et va documenter jour après jour ce qui se passe. Il y a vraiment un côté feuilleton, et sur Marina Joyce, je pense que c'est ça aussi qui a aidé le truc à prendre, c'est que quasiment tous les jours, il se passait un nouveau truc qui relançait l'intérêt autour de la
Voilà. Et puis il suffisait de retourner sur ses réseaux sociaux, de remonter le fil pour à chaque fois apporter de nouveaux éléments. C'est-à-dire que même en allant dans le passé, on pouvait amener des éléments qui, dans le présent, prenaient une importance nouvelle. C'était vraiment, vraiment fascinant. Mais c'était dérangeant aussi de voir comment cette affaire a été traitée par une grande partie des médias. On mettait en avant l'aspect sensationnaliste de la chose, son côté un peu cocasse, en oubliant un peu ce que pouvait réellement traverser la jeune femme. Et... cette impression que j'avais eue, ça a pris toute son importance plusieurs mois après. C'était le 30 mars 2017, Marina Joyce a fait une vidéo qu'elle a appelée Saving Marina Joyce, où là, pour le coup, elle a vraiment parlé sans détour de ce qui avait pu se passer. Et elle explique que si elle n'avait pas donné d'explication très claire à l'époque, c'est parce qu'elle souffrait en fait d'une dépression et qu'elle n'arrivait même pas à se l'avouer à elle-même. Et on va l'écouter juste quelques instants.
« my mind was filled with thoughts that was destroying my personality. And then it eventually stripped me from my personality completely. This was a very hard time for me. Because these thoughts particularly stopped me from having a functioning mind, I didn't even know how to hold a proper conversation with anyone anymore. I was just quiet, suffering in silence. I'm getting better now. In fact, I think I'm so much better.
Elle a tenu également à remercier ses fans et étrangement, le hashtag Save Marina Joyce, elle a dit « Je vais bien mieux maintenant, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Je suis tellement reconnaissante pour le hashtag Save Marina Joyce parce que ça m'a en réalité sauvée. » Donc en soi, c'est vrai que derrière ça, il y avait juste une personne qui souffrait parce que c'était Internet, parce que c'est la culture de l'image, du détournement de l'image, des complots, etc. On a oublié peut-être de se poser là vraiment la question sur savoir est-ce que Marina Joyce allait vraiment bien, elle, et voilà, est-ce qu'elle avait besoin d'aide sur un autre plan que voilà, ces idées un peu délirantes. Donc les complotistes continueront de croire qu'on leur ment, mais je pense honnêtement que cette affaire est en
soi... C'est propre des complotistes aussi. Hein.
Voilà, qu'on a beau leur mettre des preuves face à eux, ils continueront. Mais voilà, pour moi, cette affaire est plutôt résolue et je suis content de voir aujourd'hui que Marina Joyce a l'air d'aller mieux. Voilà.
C'est important. Et c'est vrai que cette vidéo-là a beaucoup aidé parce que ça a permis aux gens de comprendre aussi, d'expliquer d'autres zones d'ombre qui étaient celles de son attitude sur les vidéos. C'est ce qui avait vraiment le plus surpris au début. L'air un petit peu absent, d'être un petit peu déconnecté. Tout ça, en fait, sont des signes, effectivement, d'état dépressif. Quoi. Mm-hmm. Donc... on sentait qu'elle faisait, que si elle était comme ça sur ses vidéos, c'était parce qu'elle faisait ses vidéos assez machinalement. Et tu le vois même dans les choix de sujets, en fait, juste Date Outfit Ideas, c'est le genre de vidéo très classique de YouTubeuse lifestyle. Tu sens que c'est un truc qu'elle faisait mécaniquement et que ça n'allait pas. Quoi.
Plusieurs fois les mêmes mots, etc. Donc, voilà, donc effectivement, c'est rassurant. Et là, j'ai regardé un peu ses dernières vidéos, elle a l'air effectivement de mieux vivre sa vie et son activité de YouTubeuse. Voilà.
Et bah tant mieux, on est content pour elle, heureusement que ça va mieux. L'étrange chaîne du Sagittaire. Plus de 72 000 vidéos ont été postées sur une mystérieuse chaîne YouTube du nom d'Unfavorable Semicircle, pardonnez mon accent anglais, et leur seul point commun, c'est un logo du Sagittaire, qui est toujours placé au début du titre. Et plus de 3 ans après son apparition, cette chaîne n'a pas encore livré tous ses secrets. Est-ce que tu avais entendu parler, toi, de la chaîne Unfavorable Semicircle ?
Par des articles de presse spécialisée, mais c'est vrai que... quand on plonge là-dedans, on n'en ressort pas complètement indemne. J'ai été un peu troublé, je pense, pendant une demi-journée, deux jours.
Qu'est-ce qui se passe avec ça ?
Ces formes, j'avais peur de rêver de ces formes-là.
C'est complètement le genre de sujet que pourraient faire nos camarades de Distorsion, parce qu'on est sur un vrai mystère numérique, qui n'est toujours pas résolu, je spoil un peu, mais c'est assez fascinant. En fait, la chaîne Unfavorable Semicircle a été créée le 30 mars 2015, mais il aura vraiment fallu attendre le 5 avril pour que les internautes la remarquent. À cette date-là, il y avait déjà 1247 vidéos sur la chaîne, ce qui est énorme quand on y pense, et le nombre de vidéos sur la chaîne n'a cessé d'augmenter au fil des mois. D'avril 2015 à février 2016, Unfavorable Semicircle, que je vais appeler UFSC maintenant, ce sera plus rapide, a posté une vidéo toutes les 10 minutes. Donc c'est quand même beaucoup. Et à partir du 5 février 2016, tout s'est accéléré encore plus. Il y avait carrément jusqu'à 3 vidéos par minute qui étaient postées sur la chaîne. Au total, il y a quand même près de 72 000 vidéos qui ont été postées sur la chaîne d'origine. Pourquoi, par qui, on ne le sait toujours pas. C'est quand même étrange. Ce qu'il y a sur les vidéos n'aide vraiment pas non plus à éclairer notre lanterne, puisque les vidéos de UFSC commencent presque toutes par un symbole sagittaire suivi d'une combinaison de chiffres qui est a priori aléatoire. Certaines vidéos sont un peu différentes, elles commencent donc toujours par le logo, mais ensuite il y a des lettres, et elles sont classées comme si c'était des séries de vidéos en fait. Il y a par exemple la série Brill, donc tu as Brill 000001, et ensuite ça monte comme ça jusqu'à Brill 28000. Et tu as d'autres trucs comme ça, donc tu as Brill et t'as quelques séries, et énormément de vidéos surtout qui sont juste une série de chiffres et qui n'ont pas vraiment de sens.
Mais en soi, sur YouTube, ce genre de vidéos avec des titres génériques sont pas tout à fait rares, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même sans s'en rendre compte, upload des fichiers vidéo qu'ils ont enregistrés sans s'en rendre compte, des points mauves, des vidéos de voilà prises avec leur téléphone, ce genre de choses. Donc ça existe, mais c'est vrai que la série, cette façon d'organisation, c'était d'autant plus troublant. Quoi.
En fait, ce qui change surtout, c'est qu'à chaque fois, c'était ce logo du Sagittaire au début. Mmh. Parce que quand tu uploads en vrac des vidéos, je sais pas, de ton appareil photo, par exemple, si tu, elle va s'appeler... c'est juste, soit juste une série de chiffres, soit IMG et une série de chiffres. Et là, en fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait ce logo, toujours, du Sagittaire. Moi, je connais... À ma connaissance, il n'y a pas de caméra qui met automatiquement sur ta vidéo ce logo-là au début. Donc les vidéos, elles durent en moyenne 4 ou 5 secondes, mais ça peut quand même monter parfois jusqu'à plusieurs heures. Donc voilà, c'est une grande disparité dans les vidéos. Le contenu est assez troublant, et surtout très variable. Il peut y avoir du silence, des images brouillées, des sons aigus, des grésillements, des espèces de mots inintelligibles. Alors, sont-ce vraiment des mots ? C'est pas exactement, mais en tout cas, on a l'impression de discerner des mots prononcés au loin. Et il y en a d'autres qui sont encore plus curieuses, notamment une où c'est un long silence de 11 heures. Ou une autre où on entend... cette fois-ci assez distinctement, une voix qui récite l'alphabet d'une voix monocorde. Et c'est pas fini, les deux les plus mystérieuses, ce sont sans doute deux vidéos qui s'appellent Lock. Alors Lock et Delock, pardon. Alors Lock, elle a été postée en juillet 2015 et Delock a été postée en décembre 2015, donc à quelques mois d'intervalle. Et après la publication de Sagittaire Delock, il n'y a pas eu de vidéo postée sur la chaîne pendant toute une semaine, ce qui était très inhabituel. Et en analysant le son de Delock, il y a certains internautes qui ont cru entendre alors là je cite, c'est ce qui est marqué sur Reddit, un cri au loin comme un écho. Pour bon nombre d'internautes, surtout cette communauté qui s'est fédérée sur Reddit, la clé du mystère se trouverait dans ces deux vidéos. Mais on ne l'a toujours pas. Alors. Et ça va être un mystère un petit peu frustrant, car je vais vous dérouler tout ce qui se passe, c'est quand même très étrange, mais malheureusement, même les plus fins limiers du net ont encore du mal avec cette affaire. Ce qu'il y a eu, et encore aujourd'hui, une enquête à propos de cette chaîne, avec des contenus aussi étranges, forcément, UFSI a forcément nourri la curiosité de ses enquêteurs. Il y a beaucoup de threads sur Reddit, il y a des blogs qui ont commencé à en parler, et même des sites avec plus de poids médiatique, tu en parlais, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits sur le sujet. Les deux premiers gros sites qui en ont parlé, c'est l'Atlas Obscura, qui est un très bon site.
Je recommande vivement. Ouais.
Et d'ailleurs, qui peut vous servir de guide de voyage. Si vous allez dans une ville, vous allez regarder les trucs, vous allez taper le nom de la ville dans l'Atlas Obscura, ils vous mettent tous les trucs étranges qui se passent dans cette ville. C'est plutôt cool.
Oui, donc un guide pour toi.
Et je m'en sers à chaque fois que je vais quelque part. Je reviens de Copenhague et je m'en suis servi.
C'était génial.
Écoute, oui, j'ai appris des choses. Malheureusement, très déceptif sur le plan fantôme Copenhague. J'aurais bien aimé faire des histoires de fantômes de Copenhague, mais il n'y en a juste pas. C'est quand même assez étonnant vu le nombre de châteaux, mais bon, passons, ça n'a rien à voir avec notre affaire d'aujourd'hui. Donc l'Atlas Obscura en a parlé, et le site de la BBC, je pense que c'est vraiment à partir du moment où le site de la BBC en a parlé, que déjà tous les tabloïds britanniques se sont emparés de la chose, et ensuite pas mal d'autres sites, notamment en France aussi. Même si en France le phénomène est resté quand même assez restreint, c'était plus quelque chose d'anglophone, j'ai l'impression. En février 2016, Unfavorable Semicircle était devenu vraiment un petit phénomène du web, puisqu'on en parlait beaucoup. Et le 25 février, YouTube a fini par réagir. La chaîne a été supprimée pour, je cite le communiqué de YouTube, de multiples et sévères violations de la politique de YouTube concernant les spams et les autres termes de service.
C'est
classique.
C'est classique. Ça ne m'étonne pas de la part de YouTube, mais bon.
Voilà. Mais ce n'était pourtant pas la fin d'Unfavorable Semicircle, puisque le 15 mars 2016, donc... ça fait quoi, 2-3 semaines après, on a découvert des fragments de texte sur une page Google+, en apparence reliée à la chaîne YouTube d'origine. Et ces fragments ont été décodés, et il s'agissait en fait de deux liens vers un compte Twitter et une nouvelle chaîne YouTube qui avait été créée. Cette chaîne s'est remise à poster des vidéos étranges jusqu'en 2017, et en fait, le 27 septembre 2017, une dernière vidéo d'une heure et demie, qui s'appelait Reset Strange YD, a été mise en ligne. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les vidéos de cette nouvelle chaîne ont commencé à être supprimées petit à petit, comme s'il y avait littéralement un reset sur la chaîne. Aujourd'hui, il ne reste quasiment rien d'Unfavorable Semicircle sur YouTube, à part des copycats qui ont repris les vidéos d'origine et qui les ont republiées. Mais le compte Twitter, lui, continue à poster. Alors, de quoi il s'agit ? Il y a quand même pas mal de théories, ça va des plus folles aux plus plausibles. Il y a quand même certains internautes qui se demandent si ce ne serait pas un message alien qui viendrait de la constellation du Sagittaire. Voilà, ça te fait rire, je le comprends.
J'ai envie d'y croire, mais...
Non, mais cette théorie-là est tellement pas sérieuse que même l'équipe du Wiki qui a été créée pour UFSI supprime toutes les entrées à ce sujet-là. En mode, ici, on n'est pas là pour rigoler, c'est sérieux. On parle de conspiration du net, on parle pas d'OVNI, donc ils suppriment tous les articles qui font référence à des zones. Ça pourrait aussi être tout simplement un projet artistique, comme c'est le cas dans pas mal de choses qui apparaissent sur le net, ou l'œuvre de quelqu'un qui a juste beaucoup de temps à perdre, ce qui est aussi possible. Mais ce ne sont pas les trois théories les plus populaires. La théorie la plus populaire, j'ai envie de dire, avant le 25 février 2016, c'était que YouTube pourrait être derrière tout ça. Il y avait précédemment eu un mystère qui ressemblait beaucoup à celui-là, c'était la chaîne WebDriver Torso. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y a eu pas mal d'articles sur la question.
Malheureusement, je pense l'avoir raté.
Alors WebDriver Torso, en fait, c'était une chaîne qui avait aussi posté des milliers de vidéos avec des titres générés automatiquement et du contenu qui n'avait pas vraiment de sens non plus. Donc le mystère avait pris énormément d'ampleur à ce moment-là. Et YouTube avait publié un communiqué dans lequel ils avaient expliqué que la chaîne leur appartenait, que c'était une chaîne de test.
Ah oui, oui, tout à fait, oui, c'était une side test.
En fait, ils s'en servaient pour paramétrer l'ajustement de la qualité automatique des vidéos. Mais bon, pour UFSI, ça tient pas debout, puisque YouTube a supprimé la chaîne pour infraction aux termes de service, donc ce qui est une manière de prouver que ça ne leur appartient pas, en fait. S'ils l'ont supprimé, c'est que c'était pas une chaîne de test pour eux. L'autre hypothèse, c'est que ce serait une radio de nombre moderne. Et ça, c'est une théorie qui me plaît beaucoup. Alors, pour rappel, les radios de nombre, c'est des radios à ondes courtes qui diffusent des messages souvent incompréhensibles, souvent très inquiétants aussi. On a des petites musiques, des petits carillons un petit peu étranges, et qui cacheraient des messages secrets. Donc, ça a été beaucoup utilisé pendant la guerre froide. On suppose qu'elles ont servi et servent encore à des espions ou à l'armée pour communiquer par message codé avec des radios à ondes courtes. Et les vidéos de Unfavorable Semicircle pourraient, selon cette théorie, être similaire à ces radios, mais sur Internet. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment maîtriser le code, et qu'une certaine personne ait ce lien pour aller regarder la vidéo, et qu'elle ait un message codé. Et enfin, la dernière théorie, ce serait que Unfavorable Semicircle serait un programme de recrutement pour une mystérieuse organisation. Alors, suivant les théories, c'est la CIA, les services secrets, des hackers white hats, des sociétés secrètes, le FBI, n'importe quoi, on ne sait pas trop pour qui en fait, mais l'idée ce serait que les personnes qui seraient capables de percer le mystère Unfavorable Semicircle gagneraient leur contrat d'embauche chez les meilleurs agents du monde ou dans une société secrète.
Ouais, c'est un peu Charlie et la chocolaterie, mais
exactement.
Un ticket d'entrée vers un autre système, une autre entreprise.
Bah ça, en fait, c'est relié aussi à un autre grand mystère du web dont on n'a pas encore parlé dans l'émission. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on fasse un sujet là-dessus, qui était Cicada 3301, qui était en fait, là pour le coup, présenté comme un outil de recrutement de personnes très intelligentes pour une mystérieuse organisation. Il y avait toute une série de défis sur Internet, et on s'est demandé si Unfavorable Semicircle ne serait pas... en fait, sur le même principe, quoi. Ce serait pas cette mystérieuse organisation de type Cicada 3301 qui voudrait recruter des personnes très intelligentes et qui savent décoder, quoi.
Mais dans ce cas-là, effectivement, je comprends pas que YouTube ait complètement supprimé ça. Je reviens simplement sur cette suppression parce que je trouve ça complètement paradoxal de la part de YouTube. YouTube encourage en permanence la production de contenu régulière, le fait de faire des contenus plus longs pour garder les gens attentifs, etc. Et pour moi, je vois un peu une posture artistique là-dedans, dans le sens où en gros, on joue avec les codes de YouTube maximum, des contenus vides qui sont longs, qui sont postés régulièrement, et pour retenir l'attention des gens. Et je trouve ça drôle que YouTube... ça, alors qu'elle encourage ça de manière générale. Voilà.
Alors peut-être que c'était un peu trop régulier, 3 vidéos par minute. C'est peut-être le problème.
Les gâchages Pokémon mettaient une vidéo tous les jours pendant plus d'un an et ça lui a bien servi.
Peut-être que c'est David Lafarge Pokémon qui est derrière Unfavorable Semicircle, on ne sait pas. En tout cas, pour moi, le niveau de mystère reste aujourd'hui très élevé, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Toi, je ne sais pas si tu as une théorie sur la question.
Non, mais pour moi, après, on le verra peut-être dans le mystère suivant, mais je pense qu'il y a un côté purement artistique, une tentative artistique de quelqu'un, je ne sais pas, un artiste suédois, ou je ne sais pas...
je sens que tu commences à teaser ton prochain.
Post-moderniste, je ne sais pas, mais j'ai envie de croire plutôt à ça, plutôt que de me dire que c'est quelqu'un qui s'est creusé le cerveau au point de mettre des codes que personne n'a trouvé, au final.
C'est ça. Bon, en tout cas, pour nous, le dossier reste en suspens, et on attend la résolution du mystère. Peut-être qu'un jour, un article, peut-être de l'Atlas Obscura, qui sait, nous expliquera ce qui s'est réellement passé avec cette chaîne-là.
Je l'espère. Le médecin de la peste et le blogueur suédois. Ou comment une vidéo cryptique et inquiétante va entraîner l'une des plus grosses enquêtes sur Internet, de YouTube jusqu'à un hôpital psychiatrique abandonné de Pologne. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que chaque minute sur YouTube, il y a plus de 400 heures de vidéos qui sont mises en ligne. Donc chaque jour, pour peu qu'on se perde sur la plateforme, comme moi je le fais pour des raisons purement professionnelles, bien évidemment.
Évidemment.
Évidemment. Le terrible algorithme nous met à disposition des vidéos de vacances de famille, mises en ligne parfois par erreur, des vidéos d'animaux mignons, des clips de musique, des vidéos de youtubeurs. et parfois des contenus juste inexplicables, incompréhensibles, tellement dérangeants même parfois qu'ils en deviennent carrément inquiétants.
On ne parle pas de trucs inquiétants, rigolos, comme ce que vous pouvez voir dans What the Cut d'Antoine, il y a le landais sur le truc vraiment inquiétant.
Où c'est difficile d'en rire, voilà. C'est difficile de trouver des blagues à faire dessus.
Un sentiment de malaise qui nous prend quand on les voit.
Et la vidéo dont je voulais parler aujourd'hui, c'est une vidéo qui a été postée d'abord courant 2015, d'abord sur 4chan, donc un forum en ligne sur internet qui est assez connu pour ses contenus parfois un peu étranges, puis sur deux comptes YouTube, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. C'est une vidéo qui est intitulée 11BX1371, donc par souci de facilité je dirais 11BX je pense par la suite. Donc en gros c'est tourné en noir et blanc dans un bâtiment à l'abandon visiblement. On voit une personne masquée qui porte une cape, une capuche et surtout donc voilà un masque des médecins qui s'occupaient de la peste. C'est un masque assez...
avec un long bec, en fait, très, très allongé.
Un long bec où je crois où c'était pour mettre des herbes ou des soins dedans il me semble. Donc c'était un masque qui est très 14e siècle. Il n'y a aucun mot qui n'est prononcé en soi, donc les sons qu'on entend sont plutôt des grésillements assez métalliques. Et le personnage fait des signes de tête, il fait aussi des signes avec sa main et une petite diode lumineuse qui clignote dans sa paume. De temps à autre, on aperçoit aussi à l'écran des tags, des formes géométriques étranges. Bref, c'est un fouillis assez incompréhensible, très David Lynch un peu je trouve, mais qui est vraiment fascinant et donc on va entendre un petit extrait juste au moins du son pour vous rendre un peu compte de l'ambiance que ça donne. Alors malheureusement cette vidéo n'est pas devenue virale tout de suite. Il a fallu attendre la mi-octobre 2015 pour qu'un certain John Eric, alors je vais prononcer son nom, je vais essayer de prononcer, Craig Bischler je pense, ouvre son courrier. En fait il a reçu, c'est un blogueur suédois spécialisé dans la tech, qui a reçu un DVD en provenance de Pologne. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais donc ça contenait cette fameuse vidéo, et sans vraiment plus d'informations, il y avait un menu sur le DVD et une série de lettres sur le DVD. Donc il a décidé de poster la vidéo sur son site et il explique avoir tenté de résoudre ce puzzle sans y arriver. Donc il a donc sollicité l'aide de la communauté web assez vite et son article en fait résume un peu toute cette enquête là avec plein d'updates, il y a je sais pas, une quinzaine d'updates en fonction de ce que les gens ont trouvé.
D'ailleurs cet article est toujours en ligne et on le mettra, on le mettra dans les liens sur Riviera Sirail.
Il est passionnant à lire, à explorer, il y a des théories complètement délirantes mais assez intéressantes. Alors comme tu t'en doutes Mathias, Internet ne demandait que ça.
Ah, évidemment, à chaque fois qu'il y a un mystère on demande aux gens d'Internet de le résoudre, ils foncent dedans immédiatement.
Ils sont prêts à l'ordinateur, ils tapent vite sur le clavier, ils sont à fond. Donc les gens ont évidemment analysé les moindres détails de la vidéo, mais aussi la fréquence des sons que l'on entendait, parce qu'effectivement, ce genre de son, ça n'était pas dû au hasard, c'était forcément là pour quelque chose. Donc sur les spectrogrammes en question, qui ont été partagés sur Reddit, il y a des images de crânes et des séries de chiffres qui apparaissaient. Il y a un passionné d'investigation numérique qui va utiliser un codage de l'information appelé Base64 et également l'Unicode pour tenter d'interpréter ces séries de lettres et de chiffres. Il y a une autre personne, grâce à Google Images, donc un certain Exen, qui montre qu'il va réussir à retrouver le bâtiment. Il a tapé, je crois, « bâtiment abandonné Pologne » dans Google Images, et ensuite il a comparé les images avec celles de la vidéo. Et
ça correspondait exactement
à... Ouais, voilà, on voyait que les briques étaient un peu détruites, etc. Il y avait un tuyau et tout. Et il a montré qu'en fait, en gros, cette vidéo a été tournée dans un hôpital psychiatrique polonais à l'abandon. Il y a même des gens qui ensuite se sont déplacés sur place, parfois même de l'étranger, pour aller faire des vlogs dans ces endroits-là, en mode urbex, etc., en racontant, ouais, en comparant les images, etc. C'était dingue de voir qu'une enquête internet puisse avoir un impact sur le réel.
On a des youtubeurs français qui sont allés sur place pour voir à quoi ça ressemblait.
Je suis pas sûr, mais en fait, ce que je pense aussi, c'est qu'en France, ce mystère-là, il y a eu un article du Monde très intéressant, j'en parlerai juste après, mais je suis pas sûr que c'est les gens d'urbex soient allés jusque-là, jusqu'en Pologne, en tout cas, c'est vrai qu'ils se concentrent un petit peu sur la France, En tout cas, et j'ai pas souvenir d'avoir
en
vu.
En tout cas, si vous êtes youtubeur urbex et que vous nous écoutez, je sais par exemple que Mamie Twink nous écoute. est-ce que vous pourriez aller là-bas? J'aimerais beaucoup regarder une vidéo tournée dans cet endroit-là.
Et qui explique un petit peu tout ce mystère-là.
Ce qui s'est passé.
Puis en plus, il y a eu d'autres décors aussi pour d'autres vidéos dans ce style-là. Il y avait aussi des personnes qui ont évidemment utilisé le Morse pour décrypter l'utilisation de la petite diode lumineuse dont je vous parlais. Et ils ont découvert qu'il s'agissait d'un message en anglais qui disait « Red Lips Life 10th ». Donc excusez-moi là encore pour mon accent. Ça n'a pas été compris tout de suite, mais en fait, c'est assez important parce qu'il s'agit d'un anagramme de la phrase « Kill the President ». Donc voilà, là ça commence à prendre une tournure un peu bizarre, un peu...
Vous ne le voyez pas, mais je fronce les sourcils.
Voilà, il fronce complètement les sourcils. Et d'autant plus qu'une autre série de chiffres s'avère être en fait les coordonnées GPS de la Maison Blanche. Donc là, bon, on commence à se dire, ok, est-ce que c'est un message, est-ce que c'est une menace? Donc l'inquiétude grandit hein, chez le blogueur et les internautes, qui sentent bien que quelque chose de glauque est en train de se passer. On pense alors que John Eric, le blogueur, est en danger, ou alors qu'un attentat terroriste, peut-être à l'aide d'un virus plusieurs fois évoqué dans les théories, se prépare. Mais étrangement, dans tous ces indices, il y a aussi des références artistiques, comme À l'origine du monde, de Courbet, des films d'horreur un peu plus récents, ce genre de choses. Et même, il y a aussi une théorie autour du DJ Skrillex qui va émerger. Et donc, en soi, ces théories-là, ces indices-là, font penser que bon, c'est peut-être pas aussi grave que ce qu'on pouvait croire et redouter.
Ou alors ce serait genre un terroriste qui aime beaucoup la pop culture.
Voilà, ce qui serait pas complètement voilà, une espèce de un gars qui fait des références très Deadpool, voilà, un peu forcé. Mais bon, voilà, a priori, bon, les pistes s'orientent vers quelque chose d'autre. Pendant ce temps-là, en parallèle de l'enquête, il y a évidemment des personnes assez mal intentionnées qui tentent de profiter de ce phénomène en affirmant être l'auteur des vidéos, cherchant parfois même à en tirer de l'argent, mais ils sont rapidement démasqués. Parce que c'est vrai qu'au final, au-delà même du message, il y a un mystère complet qui règne autour de l'auteur de cette vidéo, parce que jusque-là, effectivement, c'est le blogueur qui l'a uploadé, donc on ne sait pas...
Mais il l'a reçu sur CD, voilà, qui lui a envoyé ce CD-là, on ne sait pas.
Voilà, c'est ça, voilà, on ne peut pas voir l'auteur de la chaîne, qu'on pourrait éventuellement retrouver ou demander à YouTube de, voilà, de pister ce genre de choses, c'était un peu étrange. Il y a eu, en fait, un moment, ils se sont rendu compte pendant l'enquête que, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait deux personnes qui avaient mis la vidéo en ligne avant sur deux comptes YouTube différents. Il y a le premier s'appelle AETBX, donc AETBX, et un autre qui s'appelle Parker Wright. Donc AETBX a expliqué avoir mis en ligne cette vidéo qu'une femme avait trouvée sur un DVD dans un parc ou au courrier apparemment. Donc voilà, c'était un peu flou, mais il niait complètement être l'auteur de cette vidéo. Et sur Twitter, un homme du nom de Parker Wright, un homonyme en fait, a expliqué qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Donc en soi, le mystère sur l'identité de la personne restait entier. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que le 30 novembre de cette année-là, un homme qui se fait appeler Parker Warner Wright a pris la parole sur Twitter et sur Facebook. Il a affirmé être le fameux homme masqué, et pour le prouver, il a publié évidemment des photos du costume, des gants avec les diodes, et il a livré des informations que seul lui pouvait connaître en soi. Donc assez vite, les gens commençaient à le croire, et il avait annoncé qu'une nouvelle vidéo allait être publiée sur la fameuse chaîne originelle. Et donc effectivement, un mois plus tard, je crois que c'était le 31 décembre, il y a une nouvelle vidéo qui s'appelle 11B3369. Donc c'est le même style que la première vidéo, mais cette fois il y a une femme qui apparaît avec un visage masqué, c'est encore un peu plus gore, un peu plus flippant. Et là encore, je vous propose d'écouter un petit extrait parce que le son est légèrement différent. Alors, les internautes n'ont pas vraiment eu le temps de travailler dessus, car quelques jours plus tard, peut-être deux semaines, le Daily Duct, qui est un site d'information vraiment très cool sur la culture web, etc., et qui suivait depuis plusieurs mois l'affaire, obtient vraiment une exclusivité. Une interview avec le fameux Parker W. Wright, un Polonais qui affirme également avoir un passeport américain. Le journaliste Mike Wenner comprend très vite que l'homme face à lui n'est pas menaçant, mais qu'il est plutôt dans une démarche d'artiste un peu énigmatique, en quête de nouveaux concepts créatifs. Ses vidéos, en fait, seraient, selon lui, une nouvelle forme d'art. Et il explique notamment, et je le cite, hein, c'est très, très bizarre, mais « Je vois mon travail comme des vagues sur l'océan. Certaines personnes cherchent des coquillages, d'autres surfent, d'autres plongent. Donc voilà, une phrase qui pour moi veut pas dire grand chose, mais.
Qui sonnerait bien dans une biennale.
Voilà, d'art, exactement, d'art ou palais de Tokyo en légende d'un travail. Mais voilà, donc en soi, là, à partir de là, ça prend une tournure un peu différente. L'homme en question expliquait également qu'il n'a pas peur de représailles de l'État américain, puisqu'il y avait quand même des messages cachés potentiellement de menaces vis-à-vis du président des États-Unis. Il dit qu'il n'a pas peur ça ne l'inquiétait pas trop. Et le journaliste conclut d'ailleurs qu'il ne pense pas que Parker Wright soit dangereux ou menaçant, mais qu'il a plutôt lancé un jeu qui en gros ne finira jamais, parce qu'il y a eu une deuxième vidéo. Sur le site du Monde, j'en parlais tout à l'heure, Morgan Tuell a écrit un papier très complet que je vous recommande. Elle explique que cette histoire s'apparente là encore un peu au creepypasta, mais plus encore à un jeu en réalité alternée, et je la cite, qui mélange des énigmes en ligne et hors ligne. C'est un format qui a très souvent été utilisé pour faire la promotion de contenus culturels comme le projet Blair Witch, la série Lost ou des albums de musique comme le groupe Nine Inch Nails. Et donc depuis sa seconde vidéo, en fait, les enquêteurs du web sont progressivement passés à autre chose là encore, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de contenu qui était mis en ligne. Et voilà, parce que dès lors qu'on a appris qu'il s'agissait d'une une expérience artistique plus qu'autre chose, le mystère perdait un peu de son intérêt. Il y avait peut-être quelque chose qui n'avait pas de fin potentiellement. Et pourtant, Parker Wright a donné de ses nouvelles en novembre 2016, donc un peu moins d'un an après son interview, avec une troisième vidéo intitulée 11-0-A-30-213, qui est là encore une vidéo assez perturbante, mais qui est quand même différente, parce qu'on y voit un homme masqué, mais habillé en général de la Navy, on dirait. Il semble tenir un discours devant une foule imaginaire, et sa gestuelle rappelle un peu les dictateurs européens du XXe siècle. Donc ça a relancé évidemment l'appétit des enquêteurs, qui se dépêchent d'analyser le spectrogramme et les codes cachés. Mais très vite, ce nouveau petit jeu est là encore délaissé. Et depuis l'été dernier, on n'a plus vraiment de nouvelles de Parker W. Wright et de son masque de médecin de la peste.
Peut-être que voyant que ça prenait un petit peu moins, il a décidé d'arrêter tout simplement, quoi.
Oui.
C'est vrai que s'il s'est rendu compte que ce qu'il avait mis en place intéressait de moins en moins les gens, il s'est dit pourquoi est-ce que je continue finalement à le faire, et il aurait pu arrêter, c'est tout à fait possible.
Et puis ce que je trouve dommage effectivement, c'est que derrière on n'ait pas plus d'informations sur sa démarche. J'aurais aimé avoir plus d'éléments, quel message il essaie de faire passer ou pas. Et je pense que c'est aussi ce qui a joué, parce que peut-être les gens disent mais pourquoi on fait ça, dans quel but.
Je crois qu'il veut juste faire des vagues sur internet que tu peux choisir de surfer.
Ah oui, ou de
plonger dedans.
Ouais, voilà,
c'est ça. Je pense que c'est juste ça son projet. Et c'est tellement dommage qu'il ait pris la parole, parce qu'en fait vraiment on était vraiment sur ce qui ressemble à de la creepypasta, mais avec un côté où ça avait l'air réaliste, tu te disais est-ce qu'il se passe quelque chose. Ça me faisait penser, je sais pas, c'est complètement le scénar que tu aurais pu retrouver dans un livre type Millennium, tu vois. Mais le mec dit non, en fait c'est une expérience artistique, en fait je veux faire comme des vagues sur internet.
À partir de là,
t'es déçu forcément, quoi. Donc je comprends que les personnes qui enquêtaient avant sur le truc se sont dit ah, c'est juste un mec qui fait des trucs un peu chelous, mais en mode artistique, quoi. Donc je comprends que voilà, perdant la connexion avec la réalité et surtout avec le mystère, les gens aient un petit peu arrêté de s'intéresser au sujet.
C'est donc une affaire tristement classée, je dois dire.
Tristement classée. J'aurais tellement aimé qu'elle continue, celle-là, et que le dossier reste en suspens. Mais malheureusement, non. Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir écoutée. Et merci à toi, Vincent, d'avoir
été. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. J'étais ravi de pouvoir participer à ce podcast.
Ça t'a plu de participer
beaucoup
à l'émission?
Oui, voilà. Et puis de flipper un peu moins qu'en l'écoutant. Voilà.
Le Bureau des Mystères, c'est un podcast Riviera Ferraille. Et donc, à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur le site de Riviera Ferraille, mais également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Charles et Mathias, et sur le compte Twitter @BDMlePodcast. Et toi, Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur l'émission Notube, sur SoundCloud, Apple Podcast, et puis sur quelques sites internet. J'écris de temps en temps sur Slate, Les Inrocks, voilà, si ça vous dit de lire des articles sur YouTube.
Et on peut également te retrouver en librairie, puisque tu as sorti un livre.
Tout à fait, oui, un livre qui s'appelle YouTube derrière les écrans. Donc voilà, là encore, j'explore un petit peu ce qui se passe dans ce milieu qu'on connaît peut-être pas encore assez bien. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas.
Ouais, je vous invite à aller écouter ce que fait Vincent et à aller lire ce que fait Vincent également. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Bureau des Mystères. Et d'ici là, faites bien attention quand vous parlez à des inconnus en ligne.